Alors, j'aime beaucoup une ambiance chaleureuse. C'est un peu générationnel, ça aussi. C'est une bande, on est des copains, quel que soit, surtout, quel que soit le poste, quel que soit le poste, le hiérarchique dans l'art et dans la galéjade et dans la distraction, m'est insupportable. La hiérarchie, d'ailleurs, en tous les domaines, m'est insupportable. Il faut, pour faire un bon potage, je parle que du potage, mais pour faire un bon film, il faut qu'on soit une bonne bande d'amis qui ont des affinités, qui savent tout sur la vie de l'autre, combien il a d'enfants, comment va sa femme et tout ça. Et à ce moment-là, on travaille bien.
Non, Clément, c'est vrai, vous n'aimez plus ça, vous croyez? Je veux dire, le métier.
C'est lui qui ne m'a jamais beaucoup aimé.
C'est un aigri. Je n'aime pas les types aigris.
Mais pourquoi comme ça tout à coup?
C'est une question de volupté. Je pars le matin de bonne heure, je fais le taureau, bien contente de faire, je change mon disque, je vais déjeuner, on va essayer des uniformes de Gugus chez Vacher à 4 heures. L'après-midi, je fais une voix sur France Culture. À mort, Barabbas, à mort. Je change mon disque. Le soir au théâtre, haut les mains, pan, pan, pan. La nuit, les Mysterious Boys. Et je n'éprouve plus aucune volupté. Tout à coup.
Jean Rochefort parti cette semaine. Rochefort, un comédien de troupe, certes, mais plus encore, Laurent, un comédien tellement singulier.
Oui, alors beaucoup de choses ont été dites depuis lundi, l'importance de Tavernier, par exemple, mais peut-être pas assez, on n'a pas assez insisté sur la mélancolie, cette mélancolie qu'on vient d'entendre à l'œuvre, parce qu'au fond, Jean Rochefort, c'était un dandy, ça c'est clair, mais est-ce que c'était pas aussi un dandy dépressif? Comme tout homme qui aime rire, eh bien, il y avait peut-être une envie de cacher la mort, la mélancolie derrière. Alors rire de tout, de soi-même, des autres, du métier, rire jusqu'au bout, rire en matière d'ironie, c'est peut-être pas pour rien qu'il est le père spirituel d'Edouard Baer, parce que ces deux-là se ressemblent et s'assemblent, c'est-à-dire qu'il y a avant tout l'idée que mieux vaut parler, mieux vaut rire, mieux vaut chanter, plutôt que tout le reste, c'est-à-dire que notamment la mort ou la mélancolie.
Et à présent, nous partons en Suède.
La Palme d'Or est attribuée à le film de Ruben Östlund, The Square.
Les filles, vous m'entendez?
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez.
On a tout vous.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
On a tout vous.
We're gonna be fine.
Now, go away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Si l'on considère que le Festival de Cannes, c'est un peu les Jeux Olympiques du cinéma, alors oui, la Suède a remporté cette année la médaille d'or avec The Square de Ruben Östlund. Première palme pour ce pays scandinave. Depuis 66 ans, ça se fête. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
C'est un compétiteur et il y pensait déjà depuis le tournage à cette palme qui vient redorer le blason d'un pays et surtout d'une cinématographie jusque-là. La figure tutélaire s'appelait Ingmar Bergman. Lui, c'est Ruben Östlund et The Square est son cinquième film, l'histoire d'un conservateur de musée incapable de pratiquer les vertus qu'il défend dans son travail. Un film pamphlet, une autre façon de scruter la désintégration de sociétés apparemment très évoluées. À Stockholm, nous avons aussi croisé le producteur d'Östlund, Erik Emmendorf, et enfin celui qui a inspiré cette histoire, Daniel Birnbaum, directeur du musée d'art moderne. Une palme d'or, c'est bien. Encore faut-il savoir trouver le bel écrin pour la sortir. Bonjour Philippe Lux.
Bonjour Christine.
C'est votre job à vous chez Back Film, le distributeur de ce film. Vous nous raconterez les enjeux d'une telle entreprise à J-4 de la sortie de The Square. Enfin, ce nouveau mercredi de cinéma entre Un taxi à Sofia, Détroit, Van Gogh, Gitaï, mais surtout Kanté.
Alors, je voulais faire quelque chose avec vous, ensemble, pour célébrer ce moment. Quelque chose que je fais également dans les cérémonies en Suède. Je voudrais que dans le public, vous fassiez ça avec moi. On peut faire une belle photo dans les deux sens. Alors maintenant, si je peux vous diriger, puisqu'après tout, j'ai emporté ce prix. cette palme. Alors je vais faire un compte à rebours, 3, 2, 1, et ensemble, on va crier ensemble. Un cri de bonheur, un cri de joie. Regardez, si tout le monde crie ensemble dans la salle, tout le monde en smoking, alors on va tourner les caméras vers le public. On y va, 3, 2, 1. Merci, merci au Festival du film, merci à Thierry, merci à Michel, merci à tous.
Lorsque Pedro Almodovar et son jury décernent cette palme, où êtes-vous, Philippe Lux, dans le Grand Théâtre Lumière ?
Hélas, non, chez moi.
Parce que... Vous n'êtes pas resté parce que vous n'y croyez pas à cette palme ?
Pas forcément ne pas y croire, on s'y attendait vraiment pas. On avait été l'année dernière très déçus parce qu'on avait Mademoiselle de Park Chan-wook en compétition, et j'avoue, on avait des attentes énormes sur le film. Et c'est le jeu, il n'a pas du tout été récompensé, malgré le fait qu'il ait eu un succès en salle. Et là, ça faisait déjà 15 jours que j'étais à Cannes. On s'est dit, bof, malgré le fait aussi que les exploitants disaient, ouais, c'est super, t'auras un prix et tout. J'ai dit, oui, mais l'année dernière aussi, on était censé en avoir un. Donc, non, et on l'a appris.
Donc, énorme surprise.
On l'a appris en même temps que tout le monde.
Oui.
Voilà.
Et là, tout d'un coup, ça travaille dans la tête très vite pour se dire, mon Dieu, on va sortir une palme d'or.
C'est assez effectivement rapide. Déjà, c'était vraiment la surprise et l'agréable surprise, parce qu'on savait qu'on était au palmarès et on s'est dit, tiens, mais quoi, puisque le film méritait le prix du scénario, le prix de la mise en scène, pourquoi pas l'acteur? Donc au fur et à mesure, on voyait les prix défiler et on se disait, tiens, ça monte. Alors on s'est dit,
vous refaisiez le plan média à chaque fois.
Voilà, on réfléchissait nombre de copies, etc., qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc, et c'est vrai qu'arrivé dans la dernière ligne de droite, après, c'est beau, quoi. On s'est dit, c'est le dernier film qui est arrivé à Cannes en compétition.
C'est vrai.
Et c'est le dernier film qui sort du palmarès, donc, c'était une énorme surprise et un vrai ravissement, quoi.
Nous sommes allés en Suède et dans le train qui nous mène de l'aéroport au centre-ville de Stockholm, une voix dans les haut-parleurs, c'est celle de Björn Ulvaeus, le chanteur du groupe ABBA. Bienvenue dans ma ville, clame-t-il, ABBA, Garbo, Bergman, les personnalités artistiques suédoises répertoriées dans tous les guides. La prochaine édition ajoutera sans doute Ruben Östlund, Palme d'Or 2017, 43 ans et auteur déjà de 4 films, avant The Square, The Guitar Mongoloid, Involuntary, Play et Snow Therapy, le plus remarqué de tous, sur la chute d'un père de famille, laissant par un réflexe de survie sa famille face à une avalanche. Östlund travaille depuis le début en tandem avec son producteur Erik Emmendorf. Ensemble, ils ont un peu dépoussiéré le système de production suédois.
Le souvenir que nous partagions de l'école de cinéma, quand on rencontrait des producteurs, ou disons des gens du métier, c'est qu'ils avaient tous la même façon de produire des films. Ils donnaient quelques coups de fil, toujours aux mêmes comédiens, quel que soit le projet. Il fallait que vous écriviez un scénario, il fallait qu'il soit parfait, que la commission du cinéma confirme qu'il était parfait, et puis on tournait pendant 20 jours, on montait pendant 12 semaines, et voilà. Nous, on vient d'un autre monde. Moi, je viens du monde de la musique. Ruben vient du monde des films sur le ski. Quand on a une idée, on a envie de la mettre en œuvre. On veut voir le résultat. Et si ça n'est pas assez bien, on recommence. Mais la décision ne peut pas revenir à quelqu'un d'autre. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Ce qui caractérise Ruben, c'est qu'il ne fait jamais mystère de ses idées. Quand il a une idée, il n'a pas peur de la partager. Il aime communiquer. Nous utilisons toujours l'étape du financement du film pour travailler le projet, surtout quand on cherche de l'argent à l'étranger. On pitch le film, on note toutes les réactions et les meilleures idées, on les pique. Et on les utilise pour le film. Au final, tout le monde participe un peu au projet. C'est une approche collaborative. C'est un des points forts de Ruben. Quand il se donne un objectif, il va jusqu'au bout. Mais il n'a jamais peur de partager avec les autres. Il a autour de lui tout un groupe de gens qu'il écoute véritablement. Quand on regarde un film de Ruben Östlund, On le juge d'abord selon les comédiens. La performance des comédiens, je trouve, on ne triche pas avec ça. Nous n'utilisons pas de gros effets, la musique n'est pas là pour manipuler le public. On n'y fait pas beaucoup de prises. Si un acteur est bon à l'écran, c'est qu'il est véritablement bon. On n'a jamais tenté d'améliorer leur jeu. Je trouve que c'est une façon de faire très juste et très pure. Et je pense que ça vient de l'expérience de Ruben dans le domaine des films de ski. C'est tellement important de savoir filmer le ski avec fidélité. On ne peut pas manipuler les images. Il s'agit de montrer quel skieur est le meilleur. Et donc on n'a jamais le droit de manipuler la performance du skieur. Quand il s'élance de tout en haut, il faut le suivre en une seule prise. Sinon, on pourrait penser que c'est truqué. C'est une approche qui est dans l'intérêt des skieurs, mais qui a beaucoup bénéficié à Ruben aussi. Et je trouve qu'il a gardé cette approche jusqu'à aujourd'hui.
Ruben Östlund du ski à la palme. The Square, oui, c'est un carré à l'intérieur duquel on peut se réfugier et s'exprimer. Exprimer un idéal égalitaire, une utopie, et c'est une installation artistique proposée par le héros de ce film, le conservateur du musée, qui à partir du vol de son portable va se révéler incapable de pratiquer les valeurs qu'il défend. Östlund va pousser à bout et avec beaucoup d'humour toutes ses contradictions jusqu'à l'absurdité. Nous avons rencontré Ruben Östlund dans sa ville natale, à Göteborg, au sud-ouest de la Suède. Le voici traduit et interprété par Harold Manning.
Her til efteråret præsenterer vi den argentinske kunstner og sociolog Lola Arias og hendes udstilling, som hedder The Square.
Vi kan ikke som museum lade os skræmme af udtrykt og overskredet grænser. Det kan vi ikke gøre.
Nu är det dags för mat och vi har dukat fram en fantastisk buffé. Svampfylld rostad majskyckling. Jag vill jättegärna ta det lite lugnt. Ja, men lugnt!
How often would you say that you take women that you don't know very well and have sex with them? You know their names?
Yeah.
So what's my name?
The Square er en frizone, hvor tillid og omsorg råder. I den har vi alle lige rettigheder og forpligtelser.
Comme Michael Haneke, vous êtes un peu un scientifique, un chercheur qui fait des expériences sur ses personnages et sur nous aussi, le public.
Yes,
Oui, je crois vraiment que vous avez raison là-dessus. Ce que j'aime chez Michael Haneke, c'est certainement qu'il demande à son public de se poser des questions. Des questions sur ce qu'il est en train de regarder. Quel est son point de vue? Moi, je viens d'un milieu enseignant. Ma mère était institutrice. Mon père, professeur d'économie. Ma mère enseignait du CP au CE2, en fait. Et j'en tire un point de vue sociologique sur les choses. Mais j'ai aussi un bagage économique. Et quand on associe une perspective économique et une perspective sociologique, alors on n'est pas loin de Marx. Il y a donc une analyse économique et comportementaliste dans ma façon de mettre en scène. C'est ça mon approche, et j'ai envie de ça. Parce qu'à mon avis, les comportements humains se définissent dans une structure, dans un système, et pas tant que ça selon notre bagage personnel.
«
Oh, ma maman, elle était méchante avec moi, et donc je suis traumatisé, c'est pour ça que je me comporte ainsi. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Nous nous comportons selon une structure économique. Nous venons d'une classe, de la classe moyenne, de la classe ouvrière, de la classe supérieure. C'est cela qui conditionne notre comportement beaucoup, beaucoup plus.
Qu'attendez-vous de nous, spectateurs ?
Je crois que mon ambition, c'est de rendre le public actif. De le faire s'interroger sur le fond. Et une chose que j'aime bien dans mes films, pas seulement dans mes films, j'ai une passion pour les dilemmes. Quand il y a deux ou trois alternatives et qu'il faut faire un choix. Et chacune aura des conséquences. Poser un dilemme pour le public, faire en sorte qu'il s'identifie à la situation, qu'il s'y identifie facilement, mais que ce soit une situation inconfortable. Et à ce moment-là, le public peut comprendre des personnages, des comportements humains, qui ne sont pas forcément positifs. Et je crois qu'on a besoin de comprendre ces comportements-là. On a besoin de les comprendre si on veut s'améliorer et si on veut prendre nous-mêmes les bonnes décisions.
C'est l'humour votre arme fatale?
Oui, peut-être. Mais pour moi, il n'y a pas de conflit entre réaliser un film sérieux et y mettre de l'humour, de faire un film divertissant, quoi. Je ne vois pas de contradiction. J'ai pas mal réfléchi. Par exemple, mes grandes idoles, comme Haneke, ou d'autres cinéastes à réessai, les auteurs, comme on dit, ils sont parfois un peu barbants. Ils sont toujours très sérieux sur des sujets très sérieux.
Bergman, par exemple.
Bergman, par exemple, bien sûr. On a envie de leur dire, allez quoi, la vie est une tragédie, mais c'est aussi une comédie.
Vous n'êtes pas un fan de Bergman ?
En Suède, on grandit tous avec Bergman, et on doit toujours s'en dépatouiller. Il a fait des bons films, mais ce que je pense, vous savez, c'est qu'il n'a pas beaucoup participé au développement du cinéma en Suède. C'était lui la star, c'était lui la diva. Et il ne nous a pas aidé à construire une industrie cinématographique suédoise.
L'arbre qui cache la forêt, en fait.
Exactement, oui.
Je n'ai pas envie de décrire la scène finale, mais elle semble dire quand même que la solution appartient aux enfants.
Je peux vous parler de l'inspiration pour cette dernière scène. Je ne pense pas que cela dévoile la fin. Il existe un poème suédois que j'aime particulièrement et qui s'appelle « Les joueurs de billes ». Vous connaissez peut-être ce jeu. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui a 50 billes. Il joue contre un autre petit garçon qui a 5 billes. Et bien sûr, il finit par gagner ces 5 billes. C'est très facile. Statistiquement, c'est très difficile de gagner avec seulement 5 billes contre 50. Et le propos de ce poème, c'est que le petit garçon qui gagne, il est très fier. J'ai gagné 5 billes, les doigts dans le nez. Mais il se met à avoir des regrets. Ce n'était pas vraiment juste, se dit-il. Il tente alors de retrouver l'autre pour lui rendre ses billes. Il le cherche beaucoup, mais il ne le retrouve pas. Et ce poème le décrit bien plus tard dans sa vie, il est devenu adulte, il réfléchit à sa vie et il regrette toujours d'avoir pris ces 5 billes. On fait des choses dont on n'est pas fier et on en a honte. Et on vit avec cette honte sans avoir pu agir comme il aurait fallu. Voilà pour moi ce que veut dire ce poème. Toutes nos erreurs, toutes les fois où on a été injuste envers les autres, c'est vraiment ça qui est le plus douloureux. Et ce sentiment de culpabilité, qui est aussi une des beautés de l'âme humaine. Regardez quand on voit un mendiant dans la rue, vraiment, ça nous interpelle. On n'a pas envie de voir ces inégalités-là. Ça nous donne un sentiment d'impuissance. On ne sait pas comment aider ces gens. Et il y a quelque chose qui nous rend très sensibles aux inégalités, je trouve, et aux mauvais traitements. Ce n'est pas tant la loi qui nous juge, c'est notre conscience qui nous juge, et ce sentiment de culpabilité. Et c'est une culpabilité qui découle de la culture dans laquelle nous vivons, parce que nous avons appris à éprouver cette culpabilité.
Ruben, votre vie a un petit peu changé depuis le mois de mai. Vous avez remporté les Jeux Olympiques du cinéma, si on peut dire. Est-ce que vous êtes devenu une sorte de héros national ici en Suède ?
C'est vraiment la première fois que j'ai vu la Suède tout entière heureuse de ce prix que j'avais gagné. J'avais reçu l'ours d'or auparavant, mais ça n'avait rien à voir. Quand on voit la liste des réalisateurs qui ont gagné la Palme, on ne peut qu'être super, super fier. Et cela a aussi beaucoup de signification pour le milieu du cinéma suédois. Parce que ce qui est important, je crois que les réalisateurs d'aujourd'hui doivent s'occuper de recruter une nouvelle génération qui va avoir envie de travailler dans ce domaine. Beaucoup de gens se sont trouvés encouragés dans le milieu de la culture en Suède. Beaucoup de gens sont effectivement très contents de ce prix.
Philippe Lux, directeur de la distribution en charge de la programmation chez Backfilm, est-ce que une palme apporte la garantie d'être mieux distribuée ?
Forcément oui.
Oui.
Forcément oui.
Et est-ce que, alors, comment on fait ? Quelle est la stratégie ? D'abord, la date de sortie, c'est très important. Il va sortir pour les vacances de la Toussaint, ce qui est généralement le cas pour les Palmes d'Or.
Alors, c'est d'ordre général. C'est-à-dire qu'en fait, le marché de octobre à décembre est un des plus gros marchés en termes cinématographiques et d'entrée en France. Donc, effectivement, on se place, la plupart des Palmes d'Or sortent dans cette période-là, à exception, par exemple, de Winter Sleep qui était sorti en mois d'août. Mais donc, on occupe sur le marché le plus important. Mais c'est aussi un des marchés les plus concurrentiels. Ouais. C'est-à-dire que vous avez intérêt à avoir vraiment un film identifié, un film fort, un film désiré, pour pouvoir non seulement s'installer, mais aussi rester sur la durée. Quoi.
Du coup, les autres films ont un peu peur de la présence d'une Palme d'Or, non ?
D'une certaine manière, oui, dans la mesure où la date de sortie est hyper importante. Et en fait, on me disait, c'est un petit peu le choix du roi. C'est vrai que quand on a réfléchi sur la date, en se positionnant sur le 18 octobre, c'est vrai que ça s'écarte un peu. Effectivement, il y a des films qui se sont écartés, certains sont restés. Mais c'est indéniable que de toute façon, comme il y a un désir auprès d'abord des exploitants, la place prioritaire en termes d'arrêt essai, voire même sur certains circuits, se fait pour la Palme d'Or.
Vous vitrifiez un peu le marché.
On met en évidence le marché de l'art essai.
Justement, est-ce qu'il y a des salles d'art essai qui ne veulent pas le film ?
Eh ben, hélas, ça se dit pas, mais bon, on est entre nous. voilà, n'est-ce pas ? Oui, parce que la Palme d'Or représente effectivement, même en termes d'entrée, je veux dire, c'est la récompense suprême, et c'est vrai que c'est indéniable qu'il y a une différence d'entrée qui est quantifiable sur la Palme d'Or. C'est français, c'est une des plus hautes distinctions. Ouais. Et là, le film, voilà, il fait quand même 2h20, c'est un film exigeant, ouais, qui est pas compliqué, mais complexe. Et on demande des engagements, et à mon grand étonnement, c'est vrai que là, on est à 4 jours de la sortie, et certaines salles à RSC préfèrent ne pas le prendre, ce qui est complètement aberrant.
Comment on fait dans ces cas-là ? On va voir quelqu'un d'autre qui arbitre ?
Alors, effectivement, quand il y a des soucis comme en cours de récréation, et ben on va voir le surveillant général, ouais, qui ici est, donc s'appelle Madame la médiatrice, ouais, qui peut résoudre ou donner son avis sur les conflits qu'on peut avoir, orienter des décisions. Après, on en a forcément, chaque distributeur qui a distribué une Palme d'Or a eu plusieurs médiations, que ce soit en province ou à Paris, mais nous concernant, si on parle spécifiquement des salles RSC qui ne prennent pas le film, on préfère dire que c'est une histoire de désir, donc de ne pas forcément forcer. On dit on préfère qu'ils ont la volonté, que certaines d'autres salles qui ont que 3 écrans ou 4 écrans s'engagent. Et après, à eux d'assumer la responsabilité auprès du public, notamment de leur expliquer pourquoi est-ce que la Palme ne sort pas dans telle et telle ville.
C'est juste un problème de riche, on le dit, parce que vu la densité des salles en France, aucun autre pays au monde n'a cette situation-là.
Oui, exactement, parce que en France, on a un des plus beaux parcs de cinéma, voilà, le monde, et que quand on sort sur, on va dire, sur 200 copies, vous trouvez forcément une salle qui va passer le film.
Voilà.
Programmer, ça veut aussi dire garder le film. Il faut que les salles le gardent.
Voilà, et là, c'est effectivement, comme disait Laurent, c'est des problèmes de riches, mais ça reste des problèmes. Oui. C'est-à-dire que sortir une Palme d'Or, quand vous sortez une Palme d'Or, a priori, tout le monde la veut, parce que c'est super, quel que soit le titre ou le film.
Tout le monde la veut la première semaine.
tout le monde la veut la première semaine.
C'est ça.
Et une Palme d'Or, ben, je pense que ça se travaille. Et un film comme The Square, c'est un film qui trouvera son public, notamment sur la durée. Mm-hmm. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on demande des engagements. C'est-à-dire de dire, ok, tu peux avoir le film, mais il va falloir qu'il puisse s'installer. Pour qu'il puisse s'installer, il faut que tu lui gardes la place. Et dans cette mesure-là, ben, on demande ce qu'on appelle effectivement des engagements pour être sûr que le film puisse être exposé là, par exemple, 5 semaines. Voilà sur une ville, sur un cinéma. Quoi qu'il arrive, et notamment avec ce qu'on appelle du plein écran.
Sachant que 5 semaines, c'est beaucoup en ce moment, vu la rotation des films en général. Il faut le préciser pour nos auditeurs.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en France, pour faire court, c'est qu'on a un pays où il y a le plus grand nombre de cinémas, mais aussi le plus grand nombre de films qui sortent. Vous avez 800 titres, 800 films qui sortent par an. Donc, vous voyez, sur 56 semaines ou 52, c'est un peu compliqué de tout rentrer. Mais donc, il y a vraiment un turnover. Donc, de temps en temps, même au bout d'un moment, les exploitants sont face à des problèmes de riches. C'est-à-dire qu'ils se disent, si jamais le film fonctionne, c'est embêtant parce que moi, j'en ai prévu 3 derrière.
Enfin, je vais vous poser une question, vous n'avez pas oublié les réponses. Mais je pense que vous avez. Vous espérez combien d'entrées?
Beaucoup.
Pour The Square. Alors, Daniel Blake avait fait 953 000. Et il faut aussi battre 120 battements, hein, qui était un gros compétiteur, qui lui a fait 745 000 entrées.
C'est vrai, mais on va pas dire, on n'est pas présomptueux, mais je veux dire, Daniel Blake est quand même un auteur confirmé. C'est effectivement Ken Loach. Le film est sorti sur une combinaison, je crois, de plus de 300 copies en VO et VF, ce qui change aussi un petit peu la donne. 120 battements est un film aussi foncièrement français. Là, on arrive sur un film suédois qu'on sortira uniquement en version originale, dont le film précédent Snowtherapy avait réalisé environ 200 000 entrées, donc on a d'autres objectifs.
Enfin, au Musée d'Art Moderne de Stockholm, nous avons rencontré celui qui est à l'origine de cette histoire, le directeur Daniel Birnbaum. Non, il n'est pas le lâche personnage que décrit Östlund, mais a beaucoup de choses à dire sur la description du monde de l'art contemporain dans le cinéma.
What are the biggest challenges in running a museum?
We're a museum of modern and contemporary art, so we need to present art that is the art of today, art that is absolutely cutting edge, and the competition is fierce. If you place an object in a museum, for instance, if we took your bag and placed it here, would that make it art?
Ah. Okay.
Vous ne trouvez pas que le monde de l'art contemporain est souvent l'objet de caricatures au cinéma?
Oui, mais là c'est une satire, non? C'est un film qui joue avec les clichés, bien sûr. Et ceux qui travaillent dans ce monde-là et qui le font très sérieusement, comme moi-même, sont habitués à ce genre de choses. Et parfois, le ridicule peut aller trop loin. Nous connaissons tous ces idées populistes selon lesquelles ce serait un monde snob et idiot. À quoi bon financer le centre Pompidou ou des musées partout en France, en Europe ou en Suède, si c'est pour voir ces œuvres ridicules? Ces gens décadents qui organisent des fêtes grotesques. Ça peut être un petit peu dangereux. Cependant, je pense que nous pouvons survivre à cela. Je ne trouve pas ça si terrible. Et puis, le film est assez comique aussi. Il y a certaines petites choses qui sont assez vraies. Pour moi, l'art contemporain, c'est un monde très intéressant, si je peux vous donner mon sentiment. C'est difficile de trouver un domaine où les gens travaillent avec autant de sérieux. On y réfléchit beaucoup, on y a des ambitions morales, des idées politiques, mais en même temps, on y trouve aussi beaucoup de superficialité, de prestige, d'argent, de célébrité. Et en fait, c'est aussi ça qui rend l'art contemporain si particulier. L'autre univers professionnel que je connais bien, c'est le monde universitaire, qui est très bien, mais qui a ses limites lui aussi. L'art, c'est tout à fait étrange. On y croise les plus importants philosophes de notre temps, qui écrivent sur les œuvres, et puis on a aussi des magazines d'art sur papier glacé, avec des publicités pour Gucci. Et en fait, c'est les deux, et on le sait bien. D'une certaine façon, c'est ce que dit Ruben. D'un côté, le monde de l'art contemporain porte des ambitions politiques relativement ambitieuses, Et l'art en même temps ne sert à rien en lui-même. Il a un rôle de modèle. C'est comme un monde symbolique dans lequel on peut s'exprimer politiquement. Mais pourtant, en même temps, les gens sont pris dans leur vie quotidienne, dans des situations souvent hypocrites. Le monde de l'art est prêt à donner des leçons de morale, mais les personnalités qui le font sont des gens comme tout le monde. Moi, j'ai réfléchi sur ce film. Et nous l'avons présenté ici, au musée, en fait. L'Institut du cinéma suédois souhaitait organiser une avant-première institutionnelle dans le monde de l'art. Et nous ne l'avons pas du tout organisée de façon prestigieuse, non, pas du tout. On l'a faite pour le personnel qui travaille ici, et pour le personnel de l'Institut du cinéma, qui est à quelques kilomètres.
Et comment ils ont réagi ?
Tout le monde était très content. C'était plein à craquer. Notre salle n'est pas immense, mais elle a quand même 300 ou 400 places. Et c'était complet. Les gens ont regardé le film, qui est un film assez long, comme vous le savez. Bon, tout le monde ne l'a pas adoré, il y a eu beaucoup de remarques. On a dit que cela décrivait le monde de l'art comme étant idiot, que c'était une caricature, comme vous le disiez. Mais les conversations pendant les heures et pendant les jours qui ont suivi montrent bien que le film pose des questions auxquelles nous devons bien tenter de répondre. Des questions plutôt délicates, pas très agréables, sur notre société et sur ses fonctionnements hypocrites. C'est un film très scandinave, je trouve. Certaines évolutions sont plus visibles aujourd'hui chez nous qu'ailleurs dans le monde. Par exemple, il n'existe pas ici de loi contre la mendicité. Nos villes sont immaculées, ce sont des joyaux, tout y est parfait. Tout y était si propre, comme à Zurich, vous voyez. Mais aujourd'hui, nous y avons des centaines de mendiants, ce qui représente un choc pour nous, qui pensons que la société doit tout faire pour éviter que les gens aient recours à la mendicité. Il ne faut pas laisser les gens devenir pauvres. Alors comment résoudre ça ? Ça, c'est un phénomène très spécifique à Stockholm, à Malmö, à Copenhague, à Oslo, dans toute la Suède, en fait. C'est vraiment un grand écart pour la population. J'ai trouvé que le film avait une ambition assez philosophique. Ce n'est pas qu'il s'attaque à une grande et unique question, mais quand on étudie la philo, ce que j'ai fait il y a 25 ans, la philosophie concrète, analytique, on travaille souvent sur des expériences de pensée. Que feriez-vous si, en ouvrant une porte, vous sauviez la vie de 500 personnes, mais vous tuiez votre mère ? C'est le genre d'exemple ridicule qui n'a pas de réponse confortable et qui vous oblige à réfléchir, à discuter pendant des heures et des heures. Que faut-il faire ? Sauver la vie de votre maman bien-aimée ou sauver la vie d'une dizaine d'inconnus à l'autre bout du monde ? Ce sont des êtres humains, eux aussi, mais vous ne les avez jamais rencontrés. Bon, ça, c'est un exemple un peu idiot, mais j'ai eu l'impression qu'on n'avait pas ici un seul film, mais une douzaine d'épisodes entremêlés qui chacun portait un questionnement éthique, comme un petit puzzle moral soumis à notre réflexion.
Voilà, il faut signaler que The Square, Palme d'Or, est également une coproduction avec l'Allemagne et la France grâce à Philippe Bobert. The Square sort mercredi prochain. Vous restez avec nous, Philippe Lux. On se retrouve avec, après Beck, Dear Life. Laurent, ce nouveau mercredi de sortie.
Oui,
alors, on va commencer avec Taxi Sofia du réalisateur bulgare Stéphane Komandarev. Le procédé a déjà été utilisé par les cinéastes iraniens, notamment Kiarostami ou Panahi. Un taxi, une espèce de no man's land dans lequel les citoyens s'expriment librement, sans contrôle. Komandarev reprend ce principe et à travers le portrait de 5 chauffeurs et leurs passagers pendant une nuit, nous dresse un portrait extrêmement noir de la Bulgarie. Chômage, précarité, jeunesse sans avenir, Europe, religion, pétage de plomb et pas de futur, très fort dans certains épisodes, un peu plus lourd dans d'autres.
Oui, on se croirait en Roumanie, hein, de ce point de vue-là, c'est-à-dire effectivement, c'est quand même la corruption et la mafia et la déliquescence à tous les étages. Je partage votre point de vue, c'est-à-dire que comme c'est un film qui prend le pari de faire des sketchs, hein, concrètement, ça veut dire une histoire, un chauffeur de taxi, différent à chaque fois.
J'ai dit, c'est bien, c'est
très très bien amené, les plans séquences sont maîtrisés, il y a du vrai cinéma, ça c'est pas douteux. Après, effectivement, il y a une inégalité dans les histoires, une inégalité dans la façon de les raconter, et donc on peut pas être emballé par l'ensemble, mais on peut dire très concrètement quand même que ça reste un film intéressant.
À l'ouest du Jourdain, Damos Gitai, qui retourne dans les territoires occupés pour la première fois depuis son film documentaire de 82, Journal de campagne. Il circule en Cisjordanie où il est témoin des efforts des citoyens israéliens et palestiniens pour tenter de dépasser les conséquences d'une occupation qui dure depuis 50 ans. Ça, c'est un cinéaste qui ne désarme pas Gitaï, Laurent.
Absolument. Et alors, certains de nos petits confrères font la fine bouche. Oh là là, Gitaï, on en a marre, toujours les mêmes choses, les mêmes conflits. Bah oui, les gars, écoutez, ça dure. Hein, Gitaï, il est pour rien. Et même, il voudrait bien que ça s'arrête, Gitaï. Et film par film, il essaie quand même d'apporter sa pierre à une contribution qui est simplement de dire il faut impérativement deux États dans cette région du monde. Et à partir de ce moment-là, les choses pourront se construire autrement. Alors, il varie énormément et moi, c'est ce que j'aime chez lui, les styles et les façons d'approcher le sujet. Cette fois, il le fait de façon beaucoup plus simple que dans certaines propositions précédentes. C'est un matériau quasiment journalistique. Il va à la rencontre des Israéliens, des Palestiniens, des Palestiniennes et des Israéliennes aussi, beaucoup en insistant sur le problème des colonies qui est le problème majeur. Et je trouve que cet ensemble journalistique, assumé comme tel par Gitaï, reste impérativement à voir, en espérant qu'un jour, enfin, ce film et tous les films de Gitaï seront dépassés.
Coexister de Fabrice Eboué, sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la dérive, décide de monter un groupe constitué d'un rabbin, un curé, un imam, afin de les faire chanter et vivre ensemble. Mais les religieux qu'il recrute sont loin d'être des saints. Voilà le pitch. Du casting des chanteurs à la scène, en passant par répétition, tournage de clips et confrontation, une succession de sketchs qui tentent de dénoncer un peu l'industrie de la musique, mais surtout les tensions religieuses sur un ton politiquement incorrect. On se lance des vannes axées sur des préjugés racistes. Tiens, ça rappelle un peu qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais jamais vraiment poussé à bout, des préjugés enfilés comme des perles, sans lecture derrière. Eboué, pourtant, l'avait fait précédemment avec Casse Départ ou Le Crocodile du Boswanga. Voilà pour lui.
Voilà.
Numéro 1 de Tony Marshall avec Emmanuel Devos. Elle, c'est Emmanuel Blachet, une ingénieure brillante et volontaire qui a gravi les échelons et qu'une femme d'influence va tenter de mettre à la tête du groupe du CAC 40 qui ne contient pas de femmes jusqu'à présent, mais la concurrence est rude.
Oui, alors, il y a un problème, c'est qu'à l'origine, Tony Marshall voulait faire une série télévisée. C'est assez rare ça aille dans ce sens-là, mais c'est vrai. Et là, ça se sent. C'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'elle avait le matériau pour faire une série. Or, le matériau, c'est quoi ? C'est évidemment la récurrence, plusieurs épisodes, une complexité, des situations qu'on peut étirer au bon sens du terme dans le temps, vraiment plus de complexification sur les personnages. Et là, du coup, elle resserre en 1h40 son propos, et ça ne va plus. C'est-à-dire qu'on n'y croit pas vraiment à ces histoires, à cette histoire de femmes qui voudraient crever le plafond. Fond de verre, tous les personnages deviennent caricaturaux, le patron machiste, l'entre-deux qui essaye d'être à la fois dans le camp des femmes et dans celui des hommes, enfin, bref, tout ça est hélas pollué par cette idée que, évidemment, pour passer d'une série à un film de cinéma, il faut beaucoup trop compacter, reste un casting XXL, au milieu duquel trône Emmanuelle Devos, dont on ne dira jamais assez qu'elle est une des meilleures actrices françaises actuelles, et puis mention spéciale pour Benjamin Biolay et l'exceptionnelle Francine Berger.
Détroit de Catherine Bigelow, été 67, une vague d'émeutes sans précédent aux États-Unis. La guerre du Vietnam vécue comme une intervention néocoloniale et la ségrégation raciale nourrit cette contestation. À Détroit, donc, des coups de feu sont entendus en pleine nuit à proximité d'une base de la garde nationale. Les forces de l'ordre encerclent l'Algiers Motel, d'où semblent provenir les détonations et bafouent toute procédure. Les policiers vont soumettre une poignée de clients à un interrogatoire sadique. Sur une mise en scène de coups de poing, certes, Bigelow, ça s'est filmé, cette violence-là, dans une reconstitution donc brutale, féroce de ces événements. Une longue mise en place, 50 minutes, les émeutes filmées et montées comme dans les news de l'époque. Et puis, cette deuxième partie centrale, interminable, ces volontaires, scène de torture sur ces victimes noires infligées par des brutes policières blanches, réduisant donc cette violence à un huis clos bourreau, victime sans jamais analyser ni les causes, ni les symptômes sociétaux de ce racisme, dont on ressent encore et toujours les secousses aux USA.
J'approuve cette analyse. Il faudrait presque quitter la salle au bout de 50 minutes. Parce que le film de Bigelow est là. C'est-à-dire ce qu'elle sait faire, c'est ça, c'est rendre cette complexité sans qu'aucun personnage principal n'apparaisse. Et tout d'un coup, elle change de cap avec effectivement ce huis clos et ce film de procès par lequel elle termine bien plus que ça, puisque c'est la majeure partie du film. Et là, ça devient une sorte de fiction de gauche assez banale.
Et c'est trop
un
tard.
Un peu trop facile et absolument.
Voilà. Ouais. La passion Van Gogh de Dorota Kobiela et Hugh Welkman. La semaine dernière, nous évoquions ce film Téhéran Tabou et ce procédé, la rotoscopie des acteurs réels filmés sur fond vert et ensuite redessinés. Autant ce procédé fonctionnait pour dénoncer les tabous de la sexualité en Iran, autant là, Laurent, lorsqu'il s'agit de raconter les derniers mois de Van Gogh à travers une intrigue, c'est beaucoup moins convaincant.
Intrigue dont on se fiche éperdument. Moi, je me fiche éperdument de savoir comment Van Gogh est mort. Est-ce qu'il s'est tiré une... Est-ce que c'est un suicide? C'est pas un suicide? Enfin, tout ça n'a strictement aucun intérêt. Mais ce qui est plus grave, c'est que, avec les meilleures intentions du monde, les cinéastes ont voulu nous plonger dans l'univers de Van Gogh pendant près de deux heures, alors tout devient Van Gogh, c'est-à-dire que visuellement la vie devient Van Gogh, mais c'est insupportable. Un tableau de Van Gogh, c'est quelque chose dans lequel on entre, mais on n'entre pas comme dans un film, et à force d'animer la vie comme Van Gogh semble-t-il l'aurait animé, ça n'en sait strictement rien, ça devient horrible, c'est-à-dire que moi, on finit par ne plus avoir du tout envie de voir du Van Gogh. C'est le paradoxe absolu, et c'est l'échec total du film.
Bon, ça va pas être mieux pour l'école buissonnière de Nicolas Vanier, je le sens. Je le sens.
Eh ben écoutez, sur l'affiche, il y a marqué, c'est une première, je crois, dans l'histoire du cinéma français ou mondial. Ce film a été réalisé par Nicolas Vanier et tourné en Sologne. Peut-être avec des acteurs OGM, élevés au grain. Enfin, cette façon de caractériser l'endroit du tournage, c'est un peu n'importe quoi. Et Nicolas Vanier, il filme comme on filmait dans les années 50, avec des acteurs qui n'en finissent pas de cabotiner, sur effectivement une Sologne magnifique. Mais pour la Sologne magnifique, il suffit de prendre sa voiture et d'aller la voir.
Donc, il faut aller voir l'atelier, en gros, de Laurent Cantès.
Ah oui, un nouveau et beau film de Cantès sur ce qu'il sait faire le mieux, sur le travail. Filmer le travail, ça, Cantès sait le faire.
Festival Lumière, on en parle, on en dit un petit mot.
Oui, ça commence aujourd'hui, oui. Et jusqu'au 22 octobre, si je ne m'abuse. Oui. J'ai un petit trou dans le mémoire, tout d'un coup. Non, c'est ça. Wong Kar-wai, Clouseau, entre autres, au programme, et Del Toro, évidemment.
Guillermo del Toro,
évidemment, voilà.
Et on vous en reparlera. Michael Mann, ouais. Anna Karina, des hommages, Jean-Pierre Melville, des projections commentées par plein d'acteurs et de réalisateurs de notre temps.
Dans toutes les salles du Grand Lyon, c'est ça qui est formidable, on vous en reparlera.
Merci Philippe Lux, on croise les doigts donc pour la sortie de The Square de Ruben Östlund mercredi prochain.
Merci à vous.
Bravo à Backfilm. Ouais. Merci à Yann Gallic et à Hugo Combes. On se retrouve la semaine prochaine avec deux invités, Albert Dupontel et Pierre Lemaître, générique en suédois. C'est une première avec Ruben, Eric et Daniel.
Det här radioprogrammet är inspirerat av film.
Det spelades in med ljud, det är radio.
Titelmusiken var skriven av Sporto Cantes.
Sången var vald av Muriel Perez.
Martin Messonet förberedde programmet.
Ann Weinfeld regisserade.
Christine Masson och Laurent Delmas producerade.
Och jag, Erik Hemmendorf, var med.
Jag, Daniel Birnbaum, var i programmet.
Och jag, Ruben Östlund, medverkade.